bonjour à tout le monde. Un excellent dernier jour de la fête des pains sans levain. D'une année à l'autre, si vous remarquez bien, la fête devient de plus en plus spéciale. Et Dieu nous montre des choses nouvelles, plus profondes chaque année. C'est normal. Parce qu'écoutez, il doit y avoir croissance dans l'Église. Il doit y avoir croissance dans la compréhension des fêtes de Dieu, des lois de Dieu, de notre cheminement spirituel. Et de ce que je vois cette année, on entend les commentaires et de ce que je vois, Dieu a révélé encore davantage des choses. Et pour notre encouragement aussi, puis qu'on continue. Le titre de mon message aujourd'hui, en ce dernier jour de la fête des pains sans levain, « Vivre dans l'esprit des pains sans levain ». Vivre dans l'esprit des pains sans levain. Vous savez, sans les fêtes de Dieu, je ne sais pas si vous le réalisez, c'est que c'est impossible de connaître le but de la vie. Sans les fêtes précieuses de Dieu, c'est impossible de connaître le but de l'existence humaine. C'est une révélation extraordinaire que Dieu donne à ses appelés qui se mettent en marche pour obéir aux lois de Dieu. À ce moment-là, Dieu révèle la compréhension des choses. Vous savez, l'ensemble du monde, lorsqu'on leur parle des fêtes de Dieu, s'imagine que ce sont des fêtes juives. Mais ce ne sont pas du tout des fêtes juives. Ce sont les fêtes de Dieu. D'ailleurs, reportez-vous à Lévitique 23. Lévitique chapitre 23, c'est le chapitre où Dieu révèle justement quelles sont les fêtes que lui a décrétées. Quelles sont les fêtes de Dieu. Alors, Lévitique 23, verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. » Les fêtes de l'Éternel, voyez-vous, ce n'est pas les fêtes des Juifs, ce n'est pas les fêtes d'une nation en particulier, c'est les fêtes de Dieu. Alors, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Et c'est pour ça qu'on se présente aujourd'hui ensemble pour être enseignés, pour approfondir sa parole, pour célébrer celui qui nous a donné ces fêtes-là. Voici quelles sont mes fêtes. Et là, ensuite, il donne la liste de ces fêtes, en commençant par le sabbat hebdomadaire de chaque semaine. Et ensuite, il donne la liste des 7 autres fêtes. Parce que le plan divin comporte, comme vous le savez, 7 étapes. Et chacune de ces fêtes représente une étape de ce plan de salut pour l'humanité. Et le but de Dieu dans tout ça, c'est d'offrir à tous les êtres humains, mais à des moments différents, mais d'offrir à tous les êtres humains de pouvoir se repentir, c'est-à-dire de pouvoir changer avec son aide, d'être transformé d'abord intérieurement, d'être transformé d'abord de cœur, qu'on change de motivation, qu'on change dans nos façons de voir les choses, dans nos façons d'agir ensuite, pour finalement être transformé totalement, et ça c'est son grand plan, même extérieurement, même physiquement, parce qu'en bout de ligne, ceux qui vont être fidèles vont être transformés même physiquement et totalement. D'être transformé en bout de ligne, d'être physique, partiellement spirituel actuellement, en être totalement composé d'esprit. Je dis partiellement spirituel maintenant, parce que Dieu place son esprit dans ceux qui sont appelés, dans ceux qui se repentent, qui demandent pardon de leurs fautes, qui passent par les eaux du baptême et dont Dieu efface la vie passée. Après ça, ils reçoivent son Saint-Esprit. Donc, intérieurement, ils ont la présence de Dieu et ils sont partiellement des êtres spirituels. Mais ils ne sont pas encore totalement des êtres spirituels. Ils vont le devenir. Ils vont le devenir à un moment précis que le Christ décrit très bien comme étant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Quand on sera transformé complètement et que nous naîtrons à ce moment-là en tant que fils et filles de Dieu, membres de sa famille royale à part entière, et alors à ce moment-là, nous serons 100% spirituels, c'est-à-dire que nous serons totalement de même nature que le Père et que Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'Église, formée des croyants fidèles qui sera transformée à ce moment-là, pourra épouser le Christ parce qu'elle sera exactement de même nature que lui. Elle n'occupera jamais son poste. bien sûr, mais elle sera de même nature. Comme deux êtres humains qui sont de même nature peuvent se marier. C'est deux êtres de même nature. Écoutez, à ce moment-là, on sera rendu à ce qu'on peut appeler, et c'est fascinant de le voir de cette façon-là, à un autre niveau d'existence. Nous serons rendus à un autre niveau d'existence. On est en train de s'en aller vers ce nouveau niveau d'existence. Au moment du baptême, Dieu nous lave, bien sûr, de toutes nos fautes passées par le sacrifice de Christ, par son sang versé. Et en même temps, il fait d'autres choses par la même opération. C'est qu'il nous enlève la pénalité de la mort éternelle qu'on avait sur nos épaules parce qu'on avait transgressé les lois de Dieu. Il y a ces deux phénomènes-là qui se passent au moment où nous sommes baptisés. Et c'est grandiose. C'est grandiose. C'est plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Et à mesure qu'on avance dans l'obéissance à Dieu et qu'on se purifie, Dieu nous donne de comprendre davantage la splendeur de son appel, puis la profondeur de ce qui se passe au moment du baptême, et ensuite, lorsqu'on renouvelle cet engagement-là à la Pâque chaque année. Il y a quelques jours, justement, nous avons pris la Pâque. Et ce qu'on a fait, les baptisés ont pris la Pâque. Et ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est que nous avons renouvelé notre engagement envers Dieu. On a dit à Dieu, « Père, je veux continuer à me débarrasser du péché, des transgressions, parce que notre combat n'est pas fini. » Nous sommes encore, justement, beaucoup humains. Notre nature humaine est encore là. Nous vivons dans un monde qui n'est pas le monde de Dieu. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attrait, et nous, on doit faire des choix, prendre des décisions et aller davantage du côté de Dieu. Alors, on a renouvelé cet engagement-là à continuer de nous débarrasser des transgressions et à laisser le Christ vivre sa vie en nous pour ainsi développer son caractère en nous. Parce que voyez-vous, au bout de l'histoire, lorsque nous allons arriver dans la nouvelle naissance, c'est qu'à ce moment-là, on aura développé le caractère de Christ suffisamment et que là, Dieu va nous rendre parfaits pour le reste de l'éternité. Alors, la famille de Dieu aura exactement la même mentalité, le même esprit, le même but, la même joie, la même harmonie de travailler ensemble comme une famille unie où il n'y a pas de désharmonie, où il n'y a pas de désaccord, où ce sera vraiment un bonheur parfait, total, pour faire des choses inimaginables qui vont nous rendre heureux à jamais. Alors, c'est ce qu'on a fait il y a quelques jours. On a renouvelé notre engagement de baptême. Et tout de suite après, on a commencé la fête des pains sans levain, parce que ça va avec l'engagement de baptême. On a dit à Dieu, on va éliminer de notre vie ce qui n'est pas conforme à ta loi, ce qui n'est pas conforme à tes lois. Et chaque année, on recommence le même scénario parce qu'on est encore humain. Alors, Dieu nous donne de vivre physiquement, de sortir les pains levés de nos maisons, de faire le ménage dans nos maisons physiquement. Ça nous fait penser que spirituellement, on doit sortir les transgressions de toutes sortes. Alors, c'est un exercice qu'il nous donne de faire chaque année pour nous aider, pour qu'on reste les yeux sur lui et sur notre engagement, pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle et nous transformer. Alors, on a sorti le levain de nos maisons, on a sorti les produits levés et nous n'avons pas mangé durant toute cette semaine de produits levés. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce que la directive nous dit de manger des pains sans levain. Pourquoi? Parce que c'est un pain qui représente le Christ lui-même qui est sans levain, qui n'a jamais péché. Et nous, on doit devenir comme ça. Et c'est intéressant parce que lors d'un repas cette semaine, mon épouse m'a dit, lorsqu'on a pris un peu de pain avec la nourriture, elle a dit, c'est comme ça qu'il faut devenir, comme ce pain-là, parce que ça représente le Christ. Et c'est ça. Quand on le voit comme ça, Dieu nous aide à voir davantage ce que ça veut dire, puis la beauté de ce que c'est. C'est vers ça qu'on s'en va. Pour être capable un jour, je ne sais pas si vous réalisez la beauté de ça, pour être capable un jour de ne plus jamais, jamais manquer notre coup, ne plus jamais pécher. Toujours dire les bonnes choses au bon moment ou garder le silence, toujours prendre les bonnes décisions, toujours être capable de percevoir le cœur des autres de l'autre côté puis d'agir en conséquence, ne plus jamais être attiré par le péché parce que le Christ n'est pas attiré par le péché. Il a payé tellement cher aussi. C'est pas pour ça qu'il n'est pas attiré par le péché, parce qu'il est Dieu. Ce serait contraire à ce qu'il est d'être attiré par le péché. Mais il a payé en plus tellement cher pour payer l'amende de nos péchés qu'il est encore moins attiré par le péché. Alors nous allons être comme ça dans le monde à venir, quand nous serons nés de nouveau, quand nous serons complètement esprits. Lévitique 23, versets 4 à 8. Voyons les fêtes que nous célébrons, que nous terminons aujourd'hui. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, il y a un moment précis pour chacune des fêtes. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. À la fin du verset 8, le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous savez, le chiffre 7 pour Dieu a une importance. Ça représente quelque chose de bien précis. Le chiffre 7, ça veut dire quelque chose de complet, quelque chose de total. Alors, le chiffre 7 ici, ça exprime notre détermination à continuer de nous purifier, à continuer dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, de remplacer le mal par le bien, tout le reste de notre vie, pour que ce soit complet, pour que ce soit total. Et si on est encore en train de faire ça, le jour où Christ va revenir, Dieu va nous figer dans cet état-là, va nous donner la perfection totale pour le reste de l'éternité, si on est de tout cœur en train de le faire au moment où le Christ va revenir et qu'on a continué à le faire au cours de notre vie. D'où le titre de mon message aujourd'hui, « Vivre dans l'esprit des pains sans levain ». Ce n'est pas juste 7 jours par année, c'est chaque jour de ma vie, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et notre changement se fait, si vous remarquez bien, et ça nous encourage aussi. Il faut être capable de le voir pour s'encourager. Vous avez fait des progrès au cours de l'année, j'espère. Et je pense que la plupart de ceux qui ont à cœur d'être là et de faire les choses comme Dieu veut ont fait des progrès. Voyez-les, puis soyez-en encouragés et remerciez Dieu, parce que ce n'est pas de votre faute. C'est lui qui vous a donné de pouvoir faire ces changements-là. Il faut être capable d'être reconnaissant. Mais notre changement, je reviens à ça, se fait progressivement, d'année en année. C'est une conversion, c'est-à-dire un changement qui est graduel, jusqu'à temps qu'il arrive à son paroxysme, le jour du retour de Christ, jusqu'à notre conversion totale et définitive, à notre changement total et définitif d'être physique, partiellement spirituel actuellement, en être totalement spirituel. Durant les 7 jours de la fête des pains sans levain, on a continué le ménage spirituel de notre vie. Vous et moi, on a continué de s'examiner dans les études qu'on a faites. Et parfois, le matin, en faisant mon étude, je pense peut dire chaque jour, je demandais à Dieu, montre-moi, parle-moi dans ta parole. Montre-moi les choses que j'ai à comprendre puis à changer. Et c'est étonnant comment Dieu nous montre dans les mêmes mots, dans les mêmes paroles qu'on a lues plusieurs fois dans le passé, comment Dieu nous montre des choses qu'on n'avait pas envisagées. Il répond. Parce qu'il veut nous amener à terme. Alors, on a fait le ménage spirituel encore cette semaine et on doit continuer à le faire au cours de l'année qui est devant nous. Pourquoi? C'est simple, parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne sommes pas encore parfaits. Il y a encore des choses à éliminer. Et une des premières choses qu'on doit faire pour y arriver, c'est encore demander à Dieu qu'il nous donne de connaître sa volonté puis qu'il nous donne d'être capable de la faire. Et il va répondre. Quand on demande quelque chose selon sa volonté, il répond toujours. C'est la première condition, demander des choses selon sa volonté. Allez à Psaume chapitre 19, s'il vous plaît. Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19 et le verset 13. Regardez ici ce que dit David. Qui connaît ses égarements? David était un homme comme vous et moi. Et comme nous, il voyait certaines de ses fautes, mais il y a certaines de ses fautes qu'il ne voyait pas non plus. Mais Dieu est bon, il ne nous montre pas nos fautes tout d'un coup. Il nous révèle graduellement ces choses-là aussi. Et regardez ce que David demande à Dieu. Je suis certain que ça a plu énormément à Dieu. Et on doit demander la même chose. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Et on doit demander à Dieu encore, montre-moi ceux que je n'ai pas encore vus. Dans ta bonté, dans ta douceur. Psaume 119, un peu plus loin. Encore un superbe psaume de David où il parle dans le même sens. Psaume 119 et le verset 133. Regardez ce que David dit, ce qu'il demande à Dieu. Affermis mes pas dans ta parole. C'était le but de sa vie, ça doit être le nôtre. Affermis mes pas dans ta parole. Et regardez, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Donc, il y a des iniquités qui me dérangent, qui ont tendance à revenir sur moi. Mais Dieu, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Donne-moi de me repentir, puis donne-moi la force de me libérer de ce levain. Romains 6. Paul en parle dans d'autres termes, mais c'est exactement le même principe. Romains chapitre 6. Et regardez le verset 12 et 13. Regardez ce que Paul nous dit à ce sujet-là. Et ça s'applique exactement à nous, à la fête des pains sans levain, et d'ici le retour de Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Et le péché va encore vous attirer, vous et moi. On aura des luttes à mener. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Tout-Puissant est avec nous si nous le supplions. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Et nous nous sommes donnés à lui au moment de notre baptême. Comme étant vivants. Oui, nous sommes vivants. De mort que vous étiez. Parce qu'avant d'avoir été pardonnés de nos fautes, nous étions sous l'amende de nos péchés. Sous la mort éternelle. Il dit, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est-à-dire, vivez selon les lois de Dieu. Et vos membres vont être des instruments de justice. 1 Corinthiens 5, juste un peu plus loin. Paul en parle encore. Il explique le même principe, dans le contexte de la fête des pains sans levain que nous vivons. 1 Corinthiens 5 et le verset 6. Paul dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » On a vu ce verset-là cette semaine, on l'a vu dans d'autres messages aussi, mais je veux vous apporter un élément un petit peu différent. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Ça dit directement qu'à ce moment-là, il faut travailler à enlever tout le levain. Tout le levain. Je ne dois pas garder un peu de levain, quel qu'il soit dans ma vie. Je dois m'efforcer d'éliminer tout. J'arrive pas tout d'un coup, ça c'est sûr. Mais avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. Mais il faut que je sois en train de le faire. Il faut pas que je sois négligent de ce côté-là. Il faut que je mette mon cœur à enlever tout le levain. Même le « un peu » dont il parle ici. Parce que l'esprit humain est tordu, vous savez. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Et parfois, on s'imagine qu'en gardant un peu de levain qui répond à notre convoitise humaine dans tel ou tel domaine, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime telle chose, alors qu'on a changé tellement d'autres choses dans notre vie, on peut penser que ça nous donne le droit de continuer comme ça et de penser qu'on est sur la bonne voie. Mais on n'est pas sur la bonne voie si on garde ce un peu de levain-là dont parle Paul ici. Avec Dieu, comme M. Appartient nous a dit tellement souvent, c'est tout ou rien. Ça, il faut en être conscient. On est là dans une bataille à finir. Et pour la finir, il faut être totalement avec Dieu. Si on n'est pas totalement avec Dieu, on ne pourra pas être totalement changé à la fin. Parce qu'on ne sera pas là. C'est aussi simple que ça. Dieu ne joue pas avec ça. Dieu veut qu'on réalise qu'on doit prendre notre appel au sérieux et notre engagement de baptême au sérieux. Enlever même le un peu de levain qu'on pense être pas si terrible dans le fond, parce qu'on l'aime. Alors, il ne faut pas attendre pour changer des choses. Il ne faut pas attendre pour changer des choses. C'est de la négligence. Et c'est un danger énorme. Et il ne faut pas y aller avec une demi-mesure non plus. Et il ne faut pas faire de compromis. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout en œuvre pour s'éloigner des transgressions qui mènent à la mort, qui nous ramènent là. Il faut faire les choix qu'il faut. Il faut faire la planification qu'il faut. Et quand il faut s'éloigner de certaines personnes, il faut s'éloigner de certaines personnes. La Bible est très claire là-dessus. Regardez 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, quelques pages plus loin. Et le verset 33-34. Regardez ce que Paul dit encore ici. Il dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies ou la présence de personnes qui font le mal ou qui agissent mal envers les autres ou qui n'ont pas tout leur cœur là, qui accusent et ainsi de suite. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, ça fait quoi? Ça corrompt les bonnes mœurs. Ça influence. Veux, veux pas. Il y a des choix à faire. C'est un ou l'autre. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Parce que si je conserve compagnie avec des gens qui font le mal, c'est que je conserve un peu de ce mal-là. Je suis un peu d'accord avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir du monde. Il explique ailleurs qu'on ne peut pas sortir du monde et le monde pêche. Et on aime le monde. On n'aime pas ce qu'ils font, mais on aime le monde. Par contre, on parle ici de gens, de nos amis. On ne parle pas de membres de famille qui ne sont pas convertis non plus. Ça, c'est autre chose. Mais on parle d'avoir des relations d'amitié avec des gens qui ne sont pas vraiment dans l'Église ou des gens qui font le mal. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Il parlait des gens d'Église. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Ah, il fallait que les gens reviennent, qu'ils fassent les choses comme il faut. Parfois, ça peut être des amitiés ou des compagnies réelles. Parfois, ça peut être des compagnies virtuelles. Certains gardent des amis sur Internet, dans les images qu'ils vont voir et ainsi de suite. Des amis virtuels parce que ça plaît à leur convoitise, soit au niveau de la pornographie ou des images douteuses et ainsi de suite. C'est de garder les choses mauvaises dans notre vie. Psaume 26, verset 4, pas besoin d'y aller, je vais vous le citer. Psaume 26, verset 4, regardez ce que David dit. Et c'est vraiment clair dans ce sens-là. Il dit, « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. » Je ne prends pas la peine de m'asseoir avec ceux qui sont faux, ceux qui sont menteurs, ceux qui font des choses contraires à ce que Dieu nous montre. « Je ne vais pas avec les gens dissimulés. » Vous savez, des gens qui parlent pendant l'arrière, qui agissent en cachette et qui font des choses qui ne devraient pas être faites. David dit, « Je ne m'assois même pas avec ces gens-là. » Donc, j'ai des choix à faire. 1 Corinthiens 5, revenons à 1 Corinthiens 5 où on était tantôt. Verset 7 maintenant. C'est pour ça que Paul dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Fin du verset 6, verset 7. « Faites disparaître le vieux levain. » afin que vous soyez une pâte nouvelle, une pâte sans levain. Et c'est ça qu'on doit être et qu'on doit s'efforcer de rester. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête des pains sans levain, non avec du vieux levain, gardons pas ce vieux levain-là, non avec un levain de malice, de dissimulation, de tricherie, d'hypocrisie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ça, c'est la voie de Dieu. Et ça, c'est celle qu'on doit garder. Ça, c'est notre phase spirituelle. C'est dans ce sentier-là que Dieu nous a amenés pour nous amener à terme. Voyez-vous, c'est ça notre chemin. Et c'est ça la nouvelle alliance aussi. C'est ça la nouvelle alliance qui se respecte non seulement dans la lettre de la loi, mais dans l'esprit de la loi. Elle est complète, la nouvelle alliance. Elle est plus que l'ancienne alliance. Parce que, comme le Christ nous l'a expliqué quand il est venu, il ne s'agit pas simplement de ne pas, par exemple, commettre l'adultère physiquement avec quelqu'un, mais de penser à le faire dans notre esprit ou de convoiter quelqu'un dans ce sens-là, c'est déjà avoir commis l'adultère, comme il a expliqué. Alors ça, c'est plus que simplement la lettre de l'esprit, la lettre de la loi, c'est l'esprit de la loi. Et c'est beaucoup plus loin, c'est le chemin spirituel dans lequel nous sommes engagés. L'esprit de la loi. Et ça, ça représente le chemin complet vers notre salut, physiquement et spirituellement. Le cheminement des rachetés qui marchent vers leur salut, qui marchent vers la vie éternelle promise à Abraham dans l'alliance qu'il a faite avec lui, que Dieu a faite avec lui dans le passé. Dieu, vous savez, quand on pense à la nation d'Israël, Dieu s'est souvenu du salut physique de la nation d'Israël à ce moment-là. Il s'est souvenu qu'Israël avait besoin d'être délivré. Et il y a eu compassion envers la nation d'Israël qui était captive en Égypte. On l'a lu plusieurs fois cette semaine, ces passages-là et des passages en rapport avec ça. Même chose en ce qui vous concerne, puis en ce qui me concerne. Dieu se souvient aujourd'hui de sa promesse de délivrance spirituelle, c'est-à-dire de salut spirituel, à sa nation spirituelle de racheter, vous et moi, qui avons été baptisés, qui avons reçu son Saint-Esprit, qui avons été engendrés, par l'Esprit de Dieu, par les arts de l'Esprit, le petit troupeau des rachetés. Allez à Exode chapitre 2. On va voir un peu cette délivrance par rapport aux Israélites. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Et on va lire les versets 23 à 25. Et on va voir ce que ça nous apprend à nous aujourd'hui. Exode 2, versets 23 à 25. Ça, c'est au moment où Israël était en captivité et où Dieu a réagi pour intervenir, pour les délivrer. Dieu a fait la même chose quand il vous a appelé, quand il m'a appelé, pour nous délivrer de la main de la mort, pour nous délivrer de notre captivité, de la mort éternelle, et pour que nous soyons délivrés de nos faiblesses, de nos fautes, que nous en libérions graduellement par sa puissance. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude ou la captivité montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Parce que Dieu avait promis qu'il allait être libéré physiquement, comme Dieu avait promis que nous allions être libérés spirituellement, son petit peuple à ce moment-ci. Son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Et là, il est intervenu pour les délivrer. Question. Est-ce que vous et moi, nous avons cette sorte de compassion qui est dans le cœur de Dieu envers nos compatriotes humains, envers tous les êtres humains sur la face de la terre? Est-ce que nous demandons régulièrement à Dieu avec cœur, face à toutes les souffrances humaines qui augmentent et qui vont augmenter d'ici le retour de Christ, est-ce qu'on lui demande avec de plus en plus d'insistance que ton règne vienne? Aie compassion, comme tu as eu compassion des Israélites. Aie compassion des pauvres êtres humains qui ont amené ces choses-là sur eux, comme on le faisait avant nous, avant que tu nous appelles, et qui en souffrent énormément. Interviens, Père. En plus de prendre bien soin de ne garder chez nous, qui sommes appelés, qui connaissons la vérité, de ne garder chez nous volontairement aucun levain, ni même le peu de levain dont je vous ai parlé tantôt. Sinon, nous allons vers l'échec. Sinon, nous allons vers l'échec. Comme les Israélites qui ont amené le levain avec eux, qui ont amené l'Égypte avec eux. Vous savez, si vous gardez volontairement du levain, des fautes, qui vous plaisent. Et moi aussi, ça s'applique à moi, je me prêche à moi aussi. Si on garde volontairement des choses qui nous plaisent, mais qui sont contraires aux lois de Dieu, si vous remettez à plus tard de travailler à éliminer telle ou telle faiblesse, si vous commencez ou recommencez à transgresser volontairement certaines lois de Dieu, vous avez raison d'avoir peur de l'avenir. Vous avez raison d'avoir peur de l'avenir. Dieu ne joue pas avec ces choses-là. C'est pour votre bien et c'est pour mon bien. Mais si vous affrontez vos fautes, comme on doit le faire, avec honnêteté, avec un désir de les éliminer, en sachant que seul on ne peut pas, puis en suppliant Dieu de nous aider graduellement de le faire, si on le supplie par le jeûne, par la prière, et s'il faut faire des sièges de jeûne pour arriver à vaincre telle chose, faisons les sièges de jeûne en conséquence. Même M. Ames, j'entendais dernièrement dans un sermon qu'il a donné, il disait, certaines personnes, des fois, qui sont aux prises avec certains problèmes majeurs, qui n'arrivent pas à vaincre. Les personnes ont mis en place une stratégie intéressante. C'est que dès qu'ils commettaient cette faute-là, l'instant d'après, il y avait un jeûne de 24 heures. Ils jeûnaient tout de suite pour supplier Dieu de leur donner la force de ne plus commettre cette faute-là. Et ils ont répété le scénario et ils ont vaincu ce qu'il y avait à vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tournés vers la source de tout pouvoir. C'est ça. Et j'ai été frappé par cette idée-là que s'il y a une faute majeure dont on a beaucoup de difficultés à se débarrasser, dès qu'on tombe dans ce piège-là, un jeûne tout de suite pour supplier Dieu. Et vous allez voir la différence. Mais si vous faites ça, si vous travaillez honnêtement à continuer d'éliminer le levain de vos vies, vous n'avez rien à craindre. Dieu va continuer d'être avec vous dans toutes les circonstances de votre vie. Aussi simple que ça. Les preuves sont là pour tellement de monde dans l'Ancien Testament et aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament aussi et pour les membres de l'Église aujourd'hui. Vous savez, souvent le plus difficile pour l'esprit humain, on le sait, M. Armstrong en a parlé tellement souvent, c'est de reconnaître nos torts. Ça, c'est la première étape. Si on arrive, avec l'aide de Dieu, à reconnaître nos torts le plus tôt possible lorsqu'ils arrivent, on simplifie notre démarche et Dieu nous bénit davantage. savez, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, hein? Puis l'orgueilleux en moi ne veut pas reconnaître ses torts et l'orgueilleux en vous non plus. Alors, c'est ça au point de départ qu'il nous faut reconnaître. C'est un des premiers pas. Parce que l'esprit charnel, lui, il se défend. Notre nature humaine, elle se défend. Elle cherche d'abord à mettre la faute sur les autres, automatiquement en partant. Quelque chose ne va pas, quelque chose n'a pas été dans notre vie, c'est la faute des autres. Et il y a un autre élément que je veux mentionner ici, là-dessus, concernant la façon dont notre nature humaine agit. C'est que non seulement on met la faute sur les autres, mais on cherche les fautes des autres. Il y a des gens parfois qui se promènent avec comme un rayon X pour voir les fautes des autres autour d'eux. Un tel a dit ça, un tel a fait ça, un tel a telle faiblesse, l'autre a telle chose. Quand on fait ça, laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'on n'a pas les yeux sur nous-mêmes. Ça donne un sentiment, sans qu'on le sache, de supériorité. Et ce n'est pas notre rôle, absolument pas dans l'Église. Ce n'est pas notre rôle dans l'Église de faire ces choses-là. Bien sûr, ça nous fait sentir meilleurs, ça nous fait sentir un peu moins pire, même supérieur aux autres. Mais c'est un faux chemin. Et c'est une sorte un peu de levain qu'on doit enlever de nos vies, de regarder le chemin que moi, j'ai à faire. Vous savez, le point de comparaison qu'on doit faire, ce n'est pas avec nos voisins, qu'ils soient mieux que moi ou moins bons que moi dans certaines choses, C'est avec Dieu. C'est avec le Christ. Lui, c'est notre standard. C'est à lui que je dois me comparer. Et si je me compare à lui, là, je n'ai pas le temps de me comparer à d'autres. Parce que ça, c'est le standard que je dois atteindre avec la force de Dieu, puis qu'il va me donner d'atteindre avec sa puissance s'il voit que j'y tiens, que j'y travaille, que je le supplie. Demandons à Dieu de nous montrer la différence entre nos pensées et ses pensées. Dans le fond, ça rejoint un petit peu les explications que je vous donne. Les pensées de Dieu sont tellement élevées au-dessus des nôtres. Vous pourrez aller voir dans Ésaïe 55, 8 et 9. Ésaïe 55, 8 et 9. Dieu précise très bien que ses pensées sont infiniment plus élevées que les nôtres. Alors écoutez, cette année, plus que nous allons nous appliquer à obéir aux lois de Dieu, plus nous allons nous appliquer à rejeter le mal, vous savez ce qui va se passer? Plus le Christ va manifester sa présence dans vous. Et plus le Christ va mettre sa foi en vous. Oui, parce que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et plus on s'efforce de lui obéir, plus il nous donne son esprit. Et la foi du Christ est un des fruits de l'esprit du Christ. Alors, plus à ce moment-là, on a de foi, plus on a d'assurance, plus on a confiance envers Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais si nous diminuons d'obéir à Dieu, ou si nous diminuons d'obéir à Dieu de tout cœur, si ce n'est plus là notre priorité vraiment première, alors nous allons avoir moins de foi, parce que nous allons avoir moins de Saint-Esprit. On en a encore, mais on en aura moins. Et moins on voit, moins on est capable de voir. C'est dans l'autre sens que les choses vont à ce moment-là. Rappelez-vous, Dieu nous a appelés et on a répondu librement. Dieu respecte la liberté qu'il nous a donnée. Et on a cette liberté-là régulièrement. Il ne l'enlève pas. Et moins on a de foi, moins on a l'Esprit de Dieu en nous, moins on lui obéit ou on se hâte de lui obéir et de changer notre vie. Alors on réagit davantage face aux difficultés, comment? Avec notre nature humaine. Puis avec nos raisonnements humains. Faut compter sur quelqu'un. Si on voit moins Dieu et on a moins assurance et moins foi en lui, là, faut régler les problèmes nous-mêmes. Faut s'organiser nous-mêmes face aux difficultés, face aux épreuves, face aux pièges de Satan et face à son monde autour de nous et face aux adversités de la vie. On devient de plus en plus isolé de Dieu à ce moment-là, même si on lui appartient. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de revenir à Dieu pour qu'il nous donne la force dont on a besoin. Parce que voyez-vous, c'est ce que les Israélites charnels ont fait et c'est ce qu'ils ont eu comme réaction. Allez à Exode 14. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Vous vous rappelez? Ils ont pris la Pâque, le lendemain soir, ils sont sortis d'Égypte. Pendant quelques jours, ils ont voyagé et ils sont allés près de la mer Rouge. Et là, verset 10, Pharaon approchait, L'ennemi les a poursuivis comme l'ennemi nous poursuit après notre baptême aussi. Quand on veut s'éloigner de notre ancien esclavage, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il ait besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Pourtant, c'est eux qui avaient supplié Dieu de les faire sortir d'Égypte. Rappelez-vous, il y avait la mémoire courte, là. Ils avaient crié à Dieu, on l'a vu tantôt. Les mêmes qui avaient crié à Dieu de les sortir d'Égypte, qui ont vu les 10 miracles incroyables que Dieu a fait. Tout de suite après, lorsqu'il arrive une certaine difficulté, on se détourne de Dieu, on oublie ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend à ses serviteurs. On attaque ceux que Dieu a choisis pour diriger son peuple. Ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est la nature humaine. On s'en prend tout de suite à l'homme que Dieu a choisi pour les diriger. Et plus que ça, ils veulent retourner en Égypte. Ils veulent retourner en arrière. Et là, ils ont peur. Et vous savez quoi? Ils ont raison d'avoir peur. Parce que là, ils ne voient plus Dieu. Ils voient seulement leur petit moi. Donc, il faut qu'ils essaient de s'en sortir. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas personne d'autre qui va s'en sortir. Et je devrais dire une chose. Ils n'avaient même pas la foi physique, je devrais dire. Parce qu'écoutez, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan strictement humain, ils avaient vu les miracles réels que Dieu avait faits. C'était impossible qu'ils puissent sortir d'Égypte. Tout ce qu'ils avaient vu pendant les 10 plaies, les 10 miracles, c'était réel, c'était physique, c'était matériel. Ils auraient dû croire, parce qu'ils avaient vu, Dieu leur avait donné des preuves à leur niveau. Mais non, ils se sont détournés de ça. Ils se sont détournés même de ça. Et ils ont regardé en arrière. Ils ont regretté ce qu'ils pensaient être si bon. Là, ils se sont mis à dire, « Hey, on était tellement bien avant en Égypte, hein? » C'est pas ce qu'ils disaient avant quand ils criaient à Dieu, quand la douleur leur arrachait des cris de supplication pour que Dieu les délivre. On oublie. Ne regardez jamais en arrière. Ne regrettez pas quoi que ce soit. Ne regardez pas en arrière non plus pour régler des comptes. Et ne regardez pas en arrière pour imaginer que c'était mieux avant. Vous avez pu avoir des bons moments, vous avez pu avoir des choses heureuses, bravo. Mais on s'en va vers un autre but maintenant. Dieu nous a révélé quelque chose de tellement plus grand. Mais vous savez, en tant qu'être humain, à cause de notre nature humaine puis de notre cœur tortueux, quand on a des difficultés, on est porté à colorer des choses du passé puis à dire « c'était tellement mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant. Ça va être beaucoup mieux après, par exemple, dans l'ensemble, parce que tout sera réglé quand le Christ va revenir. Si vous le faites, si vous regardez en arrière, vous détournez vos yeux de sur le Christ, qui est lui le chef suprême de l'Église. Et c'est lui qui a tout pouvoir. Et si vous faites ça, vous allez être affaibli et vous allez commencer à avoir peur. Et vous allez voir que les choses ne marchent plus bien parce que vous êtes éloigné de Dieu et que la bénédiction de Dieu s'éloigne de vous. C'est aussi simple que ça. Combien de fois Dieu a dit « Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous ». Ça veut dire l'inverse aussi. Si vous vous éloignez de moi, je vais m'éloigner de vous. Et si je m'éloigne de vous, vous allez voir la différence. Parce que vous allez être seulement par vous-même, de plus en plus. Écoutez, faisons notre part. Faisons notre part avec cœur. On n'est pas capable, lui nous donne d'être capable. Mais il faut vouloir la faire. Et faire entière confiance à Dieu. Et il agira. Il va agir. C'est une certitude absolue. On l'a vu dans les textes. Vous l'avez vu dans votre vie. On le voit dans l'Église et on le voit dans l'Église de plus en plus avec les miracles que Dieu fait, les guérisons que Dieu accomplit dans son Église et qui vont aller en augmentant d'ici la fin parce que Dieu va manifester sa présence parmi les siens pour voir où sont ses vrais serviteurs et où est sa vraie Église, son tout petit troupeau. Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les obstacles que vous avez aujourd'hui dans votre vie, et moi aussi, les déceptions, les frustrations, les difficultés, ils ne seront plus là à un moment donné, ça sera disparu à jamais, comme les Égyptiens. C'est des choses qui s'en viennent, ça fait partie des bénédictions de Dieu. » Les Israélites étaient tournés vers eux-mêmes. Il faut faire attention à ça. Vous savez, quand on a été baptisé, on a accepté de se renier soi-même, d'appartenir à Dieu, de lui consacrer notre vie, où qu'on soit, qui qu'on soit. Pas nécessairement dans le ministère, mais chaque membre de l'Église a le ministère de vivre comme une lumière au milieu du monde. OK? Et ça, c'est notre travail, c'est notre mandat, c'est notre mission, et de changer, et de vivre selon la culture du monde à venir, selon la culture de Dieu. Il faut faire attention de ne pas retourner sur le « moi, moi, moi ». Les Israélites étaient tournés vers eux-mêmes. « Moi, 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 ma vision des choses, mes inquiétudes, mes peurs, mes soucis, mes souffrances, mes peines, les « mais, moi, moi, moi ». Si nous nous plaignons, M. Apartia nous l'a expliqué souvent, si nous nous plaignons, nous péchons. Ça va loin. C'est une nuance importante que je vous fais là. Quand nous nous plaignons, nous péchons. Nous manquons de reconnaissance envers celui qui a tout donné pour nous et qui veut nous amener à une vie heureuse, éternelle. Il permet des difficultés, il permet des épreuves, il permet des obstacles parce qu'il est en train de développer notre caractère. Mais si nous nous plaignons, nous nous tournons vers le pauvre petit moi, au lieu de nous tourner vers Dieu et de dire à Dieu, « Montre-moi, Père, ce que j'ai à apprendre dans ce que tu me donnes à vivre maintenant. » Et si c'est quelque chose que je ne dois pas vivre, libère-moi de ça. Voyez-vous totalement entre les mains de Dieu, quelles que soient les circonstances. Si nous nous plaignons, nous péchons et nous manquons de reconnaissance. Dans le fond, si j'explique un peu, manquer de reconnaissance, c'est manquer de reconnaître que le Tout-Puissant nous a appelés maintenant dans ce monde adverse, pour que nous réussissions, pour que nous vainquions et que nous fassions partie dans le monde à venir de l'équipe du Christ pour changer les choses dans le monde. Vous savez, j'ai vu des gens, malheureusement, se plaindre de tout et de rien. J'ai vu des gens se plaindre de tout et de rien et revenir souvent sur leur passé pour rappeler les torts qu'ils avaient subis, pour regretter que les choses n'aient pas été différentes. Même pour traîner des culpabilités, même après avoir été baptisé. Mais il ne faut pas faire ça au moment de notre baptême. Dieu a effacé toute notre vie passée. Il ne faut pas revenir là-dessus. C'est comme se mettre entre Dieu et nous pour refaire l'histoire alors que Dieu a effacé notre vie passée. Et c'est un piège de l'adversaire. Il ne faut pas retourner en arrière dans ça non plus. Et il ne faut pas retourner en arrière pour mettre les fautes sur les autres ou pour nous rappeler des torts passés. Vous savez, ces gens qui étaient appelés n'avaient pas entièrement les yeux sur le Christ, n'avaient pas entièrement les yeux sur le monde à venir. Ils avaient les yeux sur le monde passé, leur monde, leur petit monde à eux. Ils n'avaient pas les yeux sur la reconnaissance qu'on doit envers Dieu, sur le fait qu'on doit changer pour lui plaire. Ils avaient les yeux sur le passé et ils étaient victimes de leur esprit charnel. Vous y penserez. C'est exactement ça. Pourtant, j'en connais d'autres, et plusieurs, qui ont vécu dans leur vie des choses pénibles, des choses injustes, et même des choses horribles. Des choses horribles, je pèse mes mots, des choses horribles. Mais ces gens-là, une fois que Dieu les a appelés, une fois que Dieu leur a révélé le but de la vie, comme à vous et à moi, qu'il leur a montré le monde qui s'en vient et le rôle qu'ils auront à jouer dans le monde à venir pour libérer l'humanité, ils ont eu à cœur de changer les choses et ils ont apprécié le pardon de Dieu, ils ont apprécié son aide et ils ont gardé, et ils gardent encore, joyeusement, malgré leur passé, les yeux sur le Christ et sur le but, étant pleins d'appréciation et ne se plaignant pas du passé douloureux qu'ils ont vécu. Et quand je vous dis passé douloureux, je ne donne pas d'exemple. Mais il y a des choses à faire dresser les cheveux sur la tête, des choses que certaines personnes de l'Église ont vécues dans le passé et qu'ils ont tourné complètement la page. Et ce sont des gens joyeux, comme le Christ nous dit, soyez toujours joyeux et qui avancent vers le royaume et qui s'efforcent de changer. Ceux qui retournent continuellement en arrière, qui regrettent, qui accusent, qui cherchent des fautes ailleurs, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont eu des blessures, bien sûr. C'est vrai, et parfois des blessures incroyablement profondes. Mais ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils grattent la blessure quand ils retournent en arrière, tout simplement. C'est ce qui se passe. Et dans le fond, ils réouvre la couche protectrice qui se forme sur une lésion ou sur une plaie après un certain temps. Ce qu'on appelle au Canada la gale. Ils enlèvent la gale, la croûte qui s'est formée. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ravive la douleur. Ça empêche la guérison. Ça remet la plaie à vif. C'est ça que ça fait. Ça ouvre la porte en plus à des infections additionnelles. C'est qu'on trouve d'autres choses qui n'ont pas été dans notre vie. On les ajoute et on devient encore plus malheureux à cause de ça. Et le problème revit. Le problème s'aggrave. Il gruge les énergies. Il fait que la personne se fige dans son passé, dans son moi passé. Et la personne n'avance plus, elle ne goûte plus le beau de la vie et elle voit de moins en moins le beau de la vie éternelle qui s'en vient. C'est un piège énormément dangereux. Au lieu de garder les yeux sur la splendeur de la libération totale que Dieu nous offre, cette personne-là fait l'erreur de choisir, parce que c'est un choix. On choisit d'être malheureux ou on choisit d'être heureux. C'est aussi simple que ça. Je vous en parlerai à un moment donné dans un autre message. Mais le bonheur, c'est un choix. Et ça, c'est la même chose ici. La personne qui fait ça, elle choisit de vivre dans le passé. Elle choisit de s'apitoyer sur elle-même. Elle choisit, dans le fond, comme on vient de le voir en grattant le bobo, elle choisit de garder ses souffrances. Et vous savez ce qui arrive à ce moment-là? C'est que cette pauvre personne, sans s'en rendre compte, elle devient une deuxième fois victime de ce qu'elle a vécu. Oui, parce qu'elle le revit, elle le garde, elle l'entretient sans s'en rendre compte. Je vous donne un exemple éloquent là-dedans. Une personne qui est en prison depuis des années, qui a souffert énormément, captivité, privation, souffrance, assaut, tout ce que vous voulez. Vous libérez cette personne-là de la prison, elle a une vie merveilleuse qui s'en vient. C'est fini la prison. Mais la personne, au lieu de bâtir sa vie et d'aller vers ce qui lui est offert, se tourne de côté et commence à penser encore à tout ce qu'elle a vécu en prison, à l'entretenir, à regretter, à haïr ceux qui lui ont fait mal, à faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est encore prisonnière. Elle a amené la prison avec elle. Elle n'est pas libre. Il faut couper avec ces choses-là dans le passé pour être capable d'aller plus loin. Se plaindre sans cesse, manquer de reconnaissance, c'est du levain à éliminer. Aussi simple que ça, parce que c'est une faute. Et tout péché est un mur qui est placé entre Dieu et nous. Vous irez voir dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Dieu dit non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop insensible pour ne pas vous entendre, sa main n'est pas trop faible ou courte pour vous aider. Ce sont vos transgressions qui mettent un mur entre Dieu et vous et l'empêche de vous écouter. Demandons à Dieu de nous montrer nos fautes. Ça, ça lui plaît. Parce que là, il voit qu'on veut changer et qu'on veut faire les choses à sa façon. Demandons à Dieu de nous purifier, de nous transformer de plus en plus. Parce que ça, c'est sa volonté. Et vous savez, il y a tellement d'endroits dans la Bible, et c'est encourageant, où c'est marqué, quand on demande à Dieu des choses selon sa volonté, et il ne peut pas ne pas nous répondre, parce qu'il veut que sa volonté soit faite dans nos vies. Et regardez 1 Jean chapitre 5, l'assurance que ça nous donne. On n'a pas fini de changer, mais il ne faut pas se décourager. Si on s'approche de Dieu, si on continue de s'approcher de Dieu, lui va continuer d'être proche de nous et de s'approcher de nous. Et on aura une assurance tellement formidable. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est simple, mais c'est tellement puissant. Il ne faut pas avoir peur d'aller devant Dieu et demander les choses selon sa volonté. Selon sa volonté. Vous savez, la fête des pains sans levain nous permet vraiment de mieux comprendre Dieu. Hein? Et ça a été le cas cette semaine. Et de mieux nous comprendre, de mieux comprendre aussi comment le levain travaille. Et comment on peut avoir l'aide de Dieu pour s'en débarrasser. Et la fête des pains sans levain nous permet de nous approcher de lui davantage. Vous savez très bien, vous savez autant que moi, le retour de Christ approche. Notre temps individuel, il est limité. Il est limité avant l'arrivée du Christ. Alors, je vous ai dit tantôt, et ça reste toujours vrai, que nous sommes libres. Dieu respecte la liberté qu'il nous a donnée. Mais il faut faire attention de ne pas abuser de la liberté que Dieu nous donne pour remettre à plus tard les choses à changer, pour éliminer la négligence. Dieu nous montre la voie à suivre, mais il ne nous impose pas sa volonté. Ça reste toujours une démarche libre. Et dans son royaume, dans sa famille, Dieu va avoir des gens qui ont librement choisi, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré le prix à payer, qui ont librement choisi de lui appartenir puis de faire les choses à sa façon. Tous ceux qui seront là seront des gens qui auront librement combattu le bon combat avec l'aide de Christ. Alors, nous devons choisir ses voies, marcher dans ses voies. Nous devons sortir librement du péché, de tout cœur, parce que nous voulons le faire, même si notre nature humaine nous tire vers le péché, vers les convoitises, comme la Bible nous dit. Si oui, en demandant son aide, nous pouvons y arriver. Deutéronome 30, et le verset 15 et 16. Deutéronome 30, verset 15 et 16. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, le choix fondamental de tout être humain quand Dieu l'appelle. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. » Ça, c'est nos ordres de marche, ses lois et ses ordonnances. Pourquoi? Afin que tu vives, et pour nous, ça veut dire la vie éternelle, et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. » Ça s'appliquait sur le plan physique aux Israélites, et pour nous, c'est sur le plan spirituel envers le royaume qui s'en vient. Et c'est pas peu dire. Dieu a tellement de choses en réserve pour nous, c'est incroyable. Si au cœur de l'année écoulée, ou au cours, je devrais dire, de l'année écoulée, nous avons ralenti spirituellement, et ça arrive, si nous nous sommes un peu éloignés de Dieu, si nous nous sommes un peu affaiblis, si nous n'avons pas avancé spirituellement comme on aurait dû, nous avons manqué notre coup. Si nous avons manqué notre coup à plusieurs égards, il est encore temps de revenir à notre Père. C'est encore temps de revenir à notre Dieu. L'histoire n'est pas finie, mais le temps se fait court. Mais l'histoire n'est pas finie. Et c'est pour ça, vous irez voir dans Ézéchiel 18, versets 29 et 30, Dieu dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Je vais m'y rendre. C'est important. Ézéchiel, chapitre 18, et le verset 29. « La maison d'Israël dit, « La voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? » Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Verset 30. « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. » Quand je vous disais ce que Paul a écrit, il ne faut pas tolérer un peu de levain. Dieu dit ici, « Débarrassez-vous de toutes vos transgressions. » Ce n'est pas de demi-mesure, de toutes vos transgressions. « Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. » Il y a une conséquence effroyable à ça. Revenez. Et ça, c'est l'appel d'un Père qui vous aime personnellement, qui a de l'affection pour vous, qui a un but extraordinaire en vue en ce qui vous concerne et qui veut vous amener à atteindre ce but. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes la maison de Dieu. Nous savons très bien ce que nous avons à faire. La Bible, elle est très simple, elle est très claire. Dieu nous donne la marche à suivre. Les 7 jours des pains sans levain, ça nous montre à éliminer constamment le mal. Et au cours de la semaine, si vous avez été comme moi, des fois, on faisait attention, il y avait quelque chose qui ressemblait à du levain, on vérifiait, voir si c'était pas ça. Et quand on est sorti à l'extérieur, on a sorti une fois pour aller au magasin, mon épouse et moi, et on a mangé une petite bouchée dans un restaurant. Et tout de suite avant d'entrer, on s'est dit, oups, il faut faire attention, là, parce qu'il y a du levain dans beaucoup, beaucoup de nourriture, alors on va choisir des choses dont on est certain qu'il n'y a pas de levain. Parce que les dangers sont là, tout le tour, les risques sont là. Ça, c'est sur le plan physique. Ça nous fait rire, mais c'est une pratique. Parce que sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. C'est ce qu'on a à faire encore. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et nous sommes la maison d'Israël spirituelle maintenant, à un autre niveau. Notre lutte est constante et nous devons être actifs pour la mener. Vous savez, il y a certains qui échouent ici, par contre. C'est triste, mais c'est vrai. Certaines personnes vont vivre 7 jours sans levain physique, dans leur maison. Ils auront fait leur ménage avant. Ils vont faire attention à ne pas manger de pain levé ou de produits levés. Mais après la fête, ils ne continuent pas vraiment à changer. Ça, c'est un risque de la nature humaine. Nous sommes des créatures d'habitude. Alors, il y a un risque de ce côté-là, de ne pas vraiment changer après. Et après la fête, de retourner à nos petites habitudes, à nos petites routines, sans vraiment se mettre comme priorité de changer en toute chose et d'éliminer au cours de l'année qui vient toutes les transgressions que Dieu va nous montrer. C'est ça qu'il veut voir dans nous autres. C'est ça qu'il veut voir dans ceux qui l'observent aujourd'hui et qui observent la fête des pains sans levain. Pour ces personnes-là, c'est comme si la fête des pains sans levain, puis le fait de sortir le levain, là, puis de ne pas en manger durant la semaine, même de manger des pains sans levain, c'est comme si c'était une technique physique et que ça n'allait pas beaucoup plus loin. Comme si c'était une action extérieure seulement, alors que l'action doit être intérieure au moment de la fête et au cours de l'année. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un rituel. C'est un changement réel. Galates 5. Galates chapitre 5. Paul en parle de façon extrêmement claire. Galates chapitre 5. Voici comment vivre constamment dans l'esprit de la fête des pains sans levain. Le titre de mon message aujourd'hui. Galates 5, on va commencer à lire au verset 16. Galates 5 et le verset 16. Paul dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça, c'est nos combats qui vont continuer au cours de l'année. Qui vont continuer. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais oui, c'est nos vieilles habitudes, nos choses anciennes qu'on aimait ou les faiblesses qu'on a. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Dieu nous pousse par son esprit à comprendre les choses, à vouloir, puis à être capable. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On veut faire ce que Dieu veut et non pas ce que nous voudrions faire. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Certains en profitent de ce verset-là pour dire que la loi de Dieu est abolie. C'est exactement le contraire que ce chapitre-là explique. C'est que nous, si on fait ces choses-là, nous ne sommes pas sous l'amende de la loi ou sous la pénalité de la mort éternelle. C'est ça que ça veut dire. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et là, Paul donne un certain nombre de choses qu'on doit éliminer de nos vies. La débauche, toutes les déviations sexuelles ou les péchés sexuels, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie sous toutes ses formes, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je n'ai pas tout nommé, mais je vous en ai donné une série. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ceux qui vont entrer dans son royaume vont être ce que la Bible appelle les violents. Ceux qui mettent tout leur cœur à supplier Dieu de changer. Et ce, jusqu'au moment du retour de Christ. Parce qu'on ne sera pas encore parfait au moment du retour de Christ, mais il faudra être en train de vouloir le devenir. Et si je vis selon les choses que je viens de décrire, ou une des choses que je viens de décrire, c'est que j'ai encore du levain en moi. Il faut que j'élimine ces choses et que je les remplace par les fruits de l'Esprit qu'on voit après. Verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des gens qui ont eu des enfances horribles, qui ont été appelés à l'Église. Dieu les bénit, les encourage. Et ces gens-là sont surprenants dans leur réaction parce qu'ils se promènent comme des êtres joyeux. Pourquoi? Parce que le passé est en arrière et qu'ils voient ce que Dieu en réserve pour eux. La paix est un autre fruit de l'Esprit de Dieu. Une harmonie, une paix. C'est pour ça qu'on a besoin d'être unis dans l'Église. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont été baptisés et qui continuent à marcher dans ses voies, ils ont crucifié leur chair, c'est-à-dire qu'ils ont lutté malgré les efforts que ça demande et les douleurs que ça demande, ils ont lutté pour éliminer ces passions-là et ces désirs-là mauvais. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça, ça veut dire qu'on a les yeux sur le Christ, celui qui donne la foi et qui la mène à la perfection, si on reste fidèle. Et ça, quelles que soient les circonstances que sont les nôtres. Alors, de grâce, ne vous laissez pas piéger par le passé. Ne vous laissez pas piéger par le passé. Et ne vous laissez pas être piégé non plus, j'ajoute un autre élément, par le présent. Ne vous laissez pas être piégé par le présent, par les circonstances de l'immédiat. Bien sûr, pour nous, êtres humains, le présent, il est réel. C'est ce qu'on vit. Il est là aujourd'hui. Ça nous entoure. On le voit, on le vit. Et le présent, ça exerce des pressions sur nous. Comment? Par les obstacles qu'il y a. Par les déceptions qu'on a tous un jour ou l'autre. Par les pertes qu'on a. Par les attaques, même de gens qu'on aime ou de gens autour de nous parfois, qui ne croient pas les mêmes choses que nous, ou qui sont en désaccord avec nous, par les découragements, par les critiques. Ça, c'est les pressions du moment présent, les incompréhensions qu'on vit, ou encore par les chutes occasionnelles qui nous arrivent d'avoir malheureusement, par faiblesse, ou par manque de prière, ou de jeûne, ou d'être proche de Dieu. Ça, c'est le présent qu'on vit. C'est nos circonstances. Chaque jour, il y a des choses semblables à ça, à plus ou moins divers degrés. Ne vous laissez pas piéger et figé dans le présent par ces choses-là. Notre Dieu est un libérateur. Il nous appelle à quelque chose de tellement grand. Et il dit qu'il va prendre soin de nous dans toutes les circonstances de notre vie. Ne vous laissez pas piéger ou figer dans le présent. Parce que quand on regarde trop le présent, qu'est-ce qu'on fait? Même chose que celui qui regarde le passé. Il regarde moins l'avenir. Et il regarde moins vers le Christ qui est notre libérateur. C'est lui qui nous donne la force de passer à travers justement les choses qu'on a à vivre chaque jour et qui sont parfois difficiles et qui sont parfois hostiles. Si on se tourne vers lui et qu'on demande son aide, il sera là parce que c'est selon sa volonté, il veut nous amener à terme. Mais il ne faut pas nous laisser piéger par des circonstances temporaires, immédiates d'aujourd'hui. Je vous rappelle, elles sont temporaires. Les épreuves qu'on a, elles sont temporaires. Un jour, elles seront complètement derrière nous. Ça n'existera absolument pas. Et ce sera comme les Égyptiens qui auront disparu. Ils auront disparu comme les Égyptiens ont disparu. Parce que si on se laisse piéger par le présent et qu'on met nos yeux sur les choses négatives qu'on a à vivre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne voit plus le Christ et on ne voit plus la beauté de ce qui s'en vient, mais on souffre de myopie. Je le mets avec cet exemple-là, vous allez comprendre encore mieux. Celui qui est myope, il ne voit pas de loin. Il voit bien de proche, mais il voit pas de loin. Et à ce moment-là, il se prive spirituellement de voir ce qui s'en vient, et il se prive de voir ce que son Créateur est prêt à faire pour lui, pour l'amener à terme. Je vous donne un exemple. Quand je me suis rendu compte que j'avais ce problème-là, avant que j'aie des verres, sur la route, à un moment donné, j'avais de la difficulté à lire les panneaux routiers qui étaient loin. Et c'est arrivé à quelques reprises. Et là, mon épouse a commencé à me faire réaliser que j'aurais peut-être besoin d'aller voir un spécialiste des yeux pour avoir des lunettes. Mais il m'est arrivé de manquer des sorties d'autoroute parce que je roulais sur l'autoroute et j'avais pas vu la signalisation routière qui m'indiquait la sortie. Il fallait que je sois rendu déçu pour la voir. Et parfois, lorsque j'arrivais près de la sortie, il y avait 2-3 voies de voiture. Je pouvais pas me tasser, alors j'étais obligé de continuer tout droit. Je manquais mon coup parce que mes yeux étaient sur l'immédiat, sur la pancarte que je venais juste de voir ou sur l'annonce qui était là, mais je voyais pas à long terme celle qui annonçait que dans tant de kilomètres, il y aurait la sortie tel numéro que moi, je devais prendre. Alors, c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Ne nous laissons pas piéger par la myopie de voir avec nos émotions et nos yeux ce qu'il y a aujourd'hui. Mettons nos yeux sur le Christ et supplions-le de combattre pour nous et de combattre en nous. Gardons les yeux sur le but. La seule réalité qui compte et qui va demeurer éternellement. Cette réalité-là à laquelle Dieu nous appelle, cette haute dimension d'existence, la vie éternelle dans sa famille, c'est la seule réalité qui compte et qui va demeurer éternellement. Tout le reste va bientôt être chose du passé. Psaume 139, s'il vous plaît. Psaume 139 en terminant. Psaume 139, vers la fin du livre. Vous savez, Dieu a un amour profond pour chacun de nous, chacun de vous. Il se préoccupe de chaque détail de votre vie. Si vous faites votre part, honnêtement, de tout cœur, et c'est le sens de la fête des pains sans levain, lui va faire tout en son pouvoir pour que vous parveniez à la vie éternelle. Psaume 139, versets 1 à 6. Regardez comment c'est encourageant de réaliser qu'est-ce que Dieu fait en ce moment même par rapport à vous personnellement qu'il a appelé à son Église, à cette époque-ci de l'histoire humaine. Psaume 139, verset 1. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Lui vous connaît et me connaît. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que chaque instant dans votre vie d'appelé de Dieu, Dieu vous regarde pour voir vos besoins. Prêt à vous pardonner, prêt à vous aider à continuer pour que vous atteigniez le but splendide qu'il a en réserve pour vous. Il est un Père rempli d'affection, rempli de miséricorde, rempli d'un amour qu'on n'arrive même pas à mesurer en tant qu'être humain, qu'on n'aura jamais la possibilité de comprendre réellement. On aura passé de l'éternité pour apprendre à le connaître et à évaluer la grandeur de son amour. Et c'est pour ça, en terminant, versets 23 et 24, regardez ce que David demande à Dieu. Et nous, on doit demander la même chose. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Montre-moi mes fautes, autrement dit. Aide-moi à en sortir. » Verset 24. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà ce que Dieu a en tête pour vous et pour moi. Alors, écoutez, planifions d'arriver l'an prochain au pain sans levain avec une croissance dans nos mains, avec une croissance à offrir à Dieu, avec des victoires qu'on aura supplié Dieu de nous donner et que nous aurons accomplies. Ne soyez esclaves ni du passé, ni du présent. Souvenez-vous du futur glorieux et heureux que Dieu a en réserve pour vous.